Le lancer de Sopalin, c'est un sport tout à fait étonnant entre le basket, la distribution de bonbons à un anniversaire et le lancer de poids, parce que c'est très très lourd quand même, le lancer de Sopalin, surtout lorsqu'il est pratiqué par le président américain à Porto Rico, devant une foule de victimes de l'ouragan Maria, la semaine dernière. Il faut voir cette vidéo, parce que c'est proprement hallucinant, hein, que de le voir de dos se saisir de ses rouleaux d'essuie-tout et de les lancer au hasard, au petit bonheur, la chance, hilar, comme s'il s'adonnait à une sorte de jeu, vous savez, avec cette façon de tirer à longue distance, comme pour mettre trois points dans un panier, la main levée pour mieux viser, le sourire de vainqueur qui est sûr de marquer, avec en guise de ballon des produits de première nécessité, du sopalin, de l'essuie-tout et tout ce que symboliquement ça peut représenter. Certains y voient une maladresse et il y a quelque chose de la farce, effectivement, quelque part entre la gaucherie et la folie. On peut aussi raisonnablement y voir de l'outrance, voire de la violence dans ce geste dont il s'est plusieurs fois justifié quand il ne s'en est pas vanté, le président américain, en octobre 2017, de son lancer de Sopalin.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. De quel geste sont faits les mots de mon invité d'aujourd'hui? Intellectuel, écrivain, poète, vous le connaissez pour ses romans et pour son désormais fameux dictionnaire égoïste de la littérature française notamment. Il vient de publier Traité des gestes, un inventaire non exhaustif de ces gestes qui nous échappent, nous trahissent et nous disent parfois mieux que les mots. Des gestes avec la langue, au geste le plus minable que j'ai eu à connaître, en passant par le geste végétal ou le geste sans nom. Bonjour Charles Danzig.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là. Un geste, c'est parfois plus violent qu'un mot?
Eh bien, dans le cas que vous avez cité en commençant de Trump, c'est effectivement beaucoup plus violent qu'un mot. Et c'était très frappant de voir que d'abord, comme vous le suggérez, il jette du sopalin et non pas de la nourriture à ces gens qui n'ont plus d'eau, par exemple. Il aurait pu distribuer des bouteilles d'eau. Et donc, jeter du sopalin, c'est déjà un premier geste de mépris. Mais utiliser le geste qu'il a eu, qui est un geste de sport, un geste de handball ou de basket, comme si les pauvres gens en face de lui étaient le réceptacle de son mépris, c'était vraiment frappant, parce que je suis pas sûr que... Enfin, c'était un geste de clown, mais moi j'ai horreur des clowns.
Ça serait un geste de clown. Je me demandais dans quelle catégorie de vos...
De clown.
De clown.
Geste de clown. Et les clowns, c'est monstrueux. Vous savez, les clowns, moi je pense que ça a été inventé pour terroriser les enfants. Et les clowns, c'est sarcastique, c'est méchant. Tous les tyrans ont été des clowns et ont eu des gestes de clowns. Mussolini a commencé comme un clown, il faisait rire les gens.
Vous parlez dans votre livre de la moue d'enfant malveillant de Donald Trump.
Mais oui,
j'ai relevé cette citation.
Mais oui, et d'ailleurs, il a eu un autre geste excessivement frappant avant d'être élu président. Quand il était en campagne, un journaliste du New York Times lui a posé une question en public devant des centaines de personnes et ce journaliste était handicapé avec les bras tordus. Et Trump lui a répondu du haut de sa tribune, de sa puissance, en contrefaisant le geste de ses bras handicapés. Et pour moi, c'est un geste qui vous disqualifie de l'humanité quand on fait ça. Il n'y avait pas besoin d'attendre qu'il soit président pour savoir qu'il était un monstre.
Pourquoi est-ce qu'il y a rien de plus violent que l'imitation caricaturale et grotesque, que l'art de singer, en réalité, Charles Danzig?
Parce que vous avez employé le mot, parce qu'on devient un singe. C'est-à-dire qu'on s'abaisse à quelque chose qui est de la pure imitation par... Au fond, c'est un phénomène d'envie, je pense. C'est... Quand on fait ça, ça veut dire qu'on envie la personne qui a fait la chose et que ne sachant comment lui répondre par la parole ou la dialectique la plus simple, on fait un geste qui lui dit « tu es comme ça, tu te crois intelligent, mais regarde, moi je te contrefais et en fait tu es laid ».
Vous en parlez beaucoup hein, dans le livre de la façon d'imiter les gestes qu'on peut prêter à certains groupes de personnes. Vous parlez notamment de la façon dont certains imitent les homosexuels par le geste, par une façon de casser le poignet. Il faut nous expliquer.
Mais oui, mais c'est un stéréotype bien connu. Et d'ailleurs, il est assez fascinant que vous qui recevez beaucoup d'acteurs, Augustin, dans votre émission, de voir comment on félicite toujours les acteurs hétérosexuels d'avoir joué des personnages homosexuels. Et ils nous racontent avec une grande complaisance, mon Dieu, comme c'est que c'était difficile, ce qui est une forme de dédain assez stupéfiante. On ne félicite jamais un acteur gay d'avoir joué un hétéro, pourtant c'est si difficile.
Ce que vous dites du geste dans votre livre et que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est effectivement qu'il parle à votre place, Charles Danzig. Vous écrivez « Les mots ont été inventés pour mentir, les gestes en nous échappant parfois peuvent nous contredire ».
Oui, je pense. Je pense que réellement le langage est une invention. Les mots sont faits pour mentir, pour nous cacher et les gestes nous révèlent malgré nous. C'est-à-dire que on a parfois des gestes contrôlés. Un geste, si je devais en donner une définition, je dirais que c'est un mouvement conscient. Bon. Sauf que par moments, des gestes nous échappent et expriment malgré nous ce que nous disons. Il y a des formes de sourire, des mouvements un peu brusques qui nous échappent, qui sont des gestes qui expriment ce que nous pensons réellement.
Vous avez eu l'impression de les surveiller, vos gestes, à vous? De les contrôler, de les gommer parfois?
Oui, ça m'est arrivé en particulier enfant. Vous savez, d'abord, les parents enseignent aux enfants à ne pas faire de gestes. Très souvent, ne bouge pas, ne remue pas trop, etc. Parce que les parents savent ça. Les parents protègent leurs enfants. Ils enseignent à leurs enfants de ne pas faire de gestes parce qu'ils savent bien la part révélatrice qu'il peut y avoir, sans compter la part de politesse ou d'impolitesse. Mais il y a un grand soin à ne pas faire de gestes de la part des parents chez les enfants qui est très frappant.
Donc pour vous, qu'est-ce que vous avez gommé ?
Moi, j'ai gommé quand j'étais petit, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire j'avais peur de, enfin, je sais pas quoi, à 15 ans, j'avais peur d'avoir des gestes efféminés. Parce qu'évidemment, on disait, on contrefaisait les gestes efféminés, comme casser le poignet ou marcher de manière déhanchée, etc. Et moi, j'étais terrorisé à l'idée qu'on découvre ce que je préférais sexuellement. Et donc, je prenais grand soin de marcher comme John Wayne.
En même temps, Charles Dantzig, ça peut avoir du bon, quand même, d'avoir conscience de ces gestes. Certains n'en ont pas du tout conscience, qui donnent parfois lieu à des attitudes tout à fait gênantes. Il y a des gestes, par exemple, dans la rue qui vous exaspèrent, non ?
Il y a des gestes qui sont... Enfin, dans la rue, il y a des choses amusantes qui se passent. Je vais vous dire, ce qui m'amuse le plus, c'est par exemple les clés de voiture. Les clés de voiture et la différence entre les hommes et les femmes. Moi, ça m'a toujours frappé. C'est un livre pour lequel j'ai fait des recherches pendant des années, donc je peux vous dire que j'ai observé ça longtemps. Un homme qui ferme sa voiture, prend sa télécommande et se plante devant la voiture et du bout de son bras, tend le bras, appuie sur sa télécommande et ferme sa voiture. Et ça veut dire objet, tu es sous ma soumission, obéis-moi. C'est exactement comme un chasseur dans la savane tuerait un tigre. Les femmes, quand elles quittent leur voiture, claquent la porte, s'en vont, font quelques pas et font un geste en pliant le bras en arrière pour fermer leur portière. Et ça prouve une désinvolture vis-à-vis de l'objet et un rapport beaucoup plus léger à l'objet et au pouvoir, qui est là une différence qu'on peut marquer entre les hommes et les femmes et qui est très frappante.
C'est absolument fascinant. Alors dans l'entrée s'asseoir, par exemple, vous épinglez, Charles Dantzig, la grossièreté des hommes qui s'asseyent en écartant les jambes dans le métro. C'est ce qu'on appelle le man spreading.
C'est ça. Moi, j'appelle ça plus vulgairement les gestes des gros cons. c'est un geste qui veut dire, évidemment, comme nous le savons tous, ça veut dire d'une part, je prends de la place parce que je mets mes jambes en équerre et je gêne les gens à côté de moi. Ensuite, je montre mon sexe qui est l'objet, qui doit être l'objet de l'admiration universelle. Et là, il y a assez peu de différence entre un gorille et un être humain. Et le gorille est moins vulgaire.
En fait, les gestes s'apprennent et se désapprennent. Si vous aviez un cours de gestes à faire aux hommes et femmes politiques, tiens, par exemple, quelle en serait la première leçon? Qu'est-ce que vous leur diriez de surveiller avant toute chose?
Vous avez raison, il faudrait donner des cours de gestes. On donne des cours de français, des cours de latin, on devrait donner des cours de gestes. Eh bien, je dirais de se méfier. Par exemple, ça m'a frappé quand Macron a été investi le jour de son investiture. Une fois qu'on lui a donné sa grande croix de la Légion d'honneur, il s'est avancé vers ses invités pour les saluer. Et un des premiers qu'il a salué est Gérard Collomb. Gérard Collomb a 25 ans de plus que lui, ou 30 ans, je ne sais pas. Eh bien, Macron s'est approché et lui a pris sa joue dans sa main d'un geste protecteur. Pour moi, c'était fascinant d'un geste de pouvoir qui dit à un homme « tu es sous ma domination ». De façon très discrète, mais quand même. Et je dirais aux hommes politiques, faites attention à ça, parce qu'il y a toujours un Charles Dantzig qui le voit. C'est un peu voyant.
Celle qui ne souffre aucune leçon dans cette émission, c'est la culture, Charles Dantzig, et son actualité à qui il échappe parfois quelques mains aux fesses et doigts d'honneur, pour le moins malheureux. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 10 octobre ?
Néanmoins, je prie sur moi pour tomber posément. Dénombrons déjà dans ma solitude une majorité de femmes parmi la foule amassée en bas pour m'accueillir. Il ne m'échappait pas que l'une d'elles me photographiait. Une de ces blondes que nous appelons platinées. À vrai dire, je n'étais qu'au début de mon ascension.
Jean Rochefort, 29 avril 1930, 9 octobre 2017.
Vous savez pour moi rien que l'amour, n'est-ce pas ?
Pablo à la bouche après son inauguration hier par le couple présidentiel, l'expo Picasso 1932, année érotique, ouvre ses portes aujourd'hui au musée Picasso à Paris. Conçu comme le journal de bord chronologique de l'année des 50 ans du maître et de sa première grande rétrospective, l'événement montre 110 tableaux, dessins, gravures, sculptures qui lient intimité, créativité et sensualité. Olé. Alors nous, on ne l'avait pas du tout senti venir, celle-là, Starboy, l'album du Canadien The Weeknd, va être adapté en BD, façon comics, par l'écurie Marvel, annoncée sur Twitter. La BD qui transformera Abel Tesfaye en super-héros sera publiée en 2018. C'est pas la première fois que Marvel met à l'honneur le hip-hop. Le studio avait déjà détourné des pochettes d'albums de Tyler, The Creator, Dr. Dre ou Lauryn Hill. Oh là là là! Lundi tout doux pour Anne-Laure Bondou, la romancière française a remporté hier le premier prix vendredi, baptisé en hommage à Michel Tournier et pensé comme un Goncourt de la littérature jeunesse. Anne-Laure Bondou a été récompensée pour L'aube sera grandiose, chronique d'une nuit mystérieuse et d'une relation mère-fille tissée de secrets et de tendresse paru chez Gallimard Jeunesse. Charles Dantzig, invité de Boomerang ce matin pour son traité des gestes, un mot peut-être sur les gestes de Jean Rochefort.
Ah, Rochefort, je l'ai... très peu connu, mais il avait quelque chose de très frappant comme geste. C'est un sourire en coin, dans mon souvenir, du côté droit de la bouche. Et c'était, ça soulevait un peu sa moustache qui donnait l'impression d'être une aile d'oiseau qui s'envolait comme ça. Et on sentait bien que ce sourire en coin, c'était l'intention satirique chez lui. Il était très, très drôle.
C'est un livre, Traité des gestes, Charles Dantzig, où vous passez en revue tout un ensemble de gestes. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les gestes de lecteur. C'est une section évidemment qui intéresse, j'en suis sûr, beaucoup les auditeurs de Boomerang. Quel geste est-ce qu'on fait quand on lit ?
Eh bien, le premier geste qu'on fait quand on lit, c'est un geste, contrairement à ce qu'on dit souvent, où on dit la lecture est une fenêtre sur le monde et autres clichés, c'est un geste qui sépare. Parce que la première chose qu'on fait, c'est qu'on se penche sur un objet qui vous isole du reste du monde. C'est pas du tout une grande communion avec les autres, la lecture, je regrette de dire ça, mais c'est, on s'enferme et même on crée des œillères de part et d'autre de ses yeux, parce qu'on ouvre un livre et de part et d'autre de ses yeux, on ferme ses yeux vers quelque chose. Et puis ensuite, il y a ce geste assez charmant, une fois qu'on a lu, de tourner la page avec l'index, et qui est un très joli geste discret, comme ça, qui est un geste qui est repris un peu dans les iPhones d'ailleurs.
En feuillette, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ces gestes de lecteur, ils sont en train de disparaître ou pas, avec l'arrivée notamment de tablettes de lecture dont vous parlez dans le livre?
Je ne crois pas, parce que d'abord, finalement, on a eu des statistiques assez récemment. Le livre numérique n'augmente pas en France, il reste assez peu, et le geste de la lecture continue. Et puis, vous savez, d'une certaine façon, on lit trop. Les gens lisent trop de mauvais livres pour commencer, puis ensuite ils lisent trop sur les réseaux sociaux, ils lisent trop sur Twitter, ils lisent trop sur Facebook, ils devraient, je sais pas quoi, sortir et chanter.
Non, en tout cas, disons que les parties du corps qui sont engagées dans la lecture restent les mêmes, les yeux, la tête, mais aussi les mains. Vous dites que ce sont les rênes du corps. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, je crois que par ces gestes-là, précisément, le corps et une pensée acceptent de s'offrir à quelqu'un qui nous donne quelque chose à lire. Et ça, c'est assez beau. C'est-à-dire, par tous ces gestes, ça veut dire que c'est comme si on était un cheval tenu par des rênes qui est le grand écrivain qui, voilà, je me mets en selle avec Marcel Proust, il me guide.
Mais c'est pourtant, ça veut dire. La main, dites-moi si je me trompe, elle est parfois un petit peu méprisée, comme si elle s'opposait au cerveau. On a tendance à la dégrader, non ?
Oui, mais ça, vous savez, c'est l'affaire des gestes. Les gestes, au fond, on les considère pas beaucoup, on n'y réfléchit pas beaucoup parce que c'est de la surface. C'est des choses en surface. Et les hommes aiment tellement ne pas s'aimer qu'ils ont inventé le mot superficiel pour dire pas bien. Je n'ai jamais compris pourquoi superficiel voulait dire pas bien. Pour moi, dans les profondeurs, on se noie. Moi, la profondeur, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien d'intéressant dans la profondeur. La profondeur, c'est la noyade, c'est les caves, c'est les greniers, c'est des choses sinistres. Nous sommes des êtres de surface. Nous vivons à la surface de la Terre. Les gestes, par conséquent, sont des choses de surface et c'est en ça qu'ils sont intéressants. La surface, c'est passionnant. C'est ce que nous exprimons au monde.
Il y a une légèreté aussi.
Bien sûr, il y a une légèreté. Enfin, ça dépend, si c'est un coup de poing, ça peut être une lourdeur, mais...
Et puis, puisqu'on parle des mains, jeu de main, jeu de vilain, Charles Dantzig.
On peut. D'ailleurs, les gestes de la sexualité sont à la fois très amusants, parce que finalement, quand vous réfléchissez au fait que deux corps dans un lit, on se demande combien de bras et de jambes ils ont. Quand l'acte d'amour est fait, on a l'impression qu'il y a 12 jambes, 14 bras, et ça remue dans tous les sens. Et en même temps, c'est là aussi que peut-être se produisent les gestes les plus délicats. Car dans l'amour, c'est là que se crée, je crois, le plus grand tact, si le tact, comme je le crois, est l'imagination de ce qu'est l'autre. C'est-à-dire que on va vers la partie du corps dont on sait qu'elle est la plus excitée pour l'autre, on fait attention à ne pas brusquer l'autre. En fait, je crois que c'est là, dans cette proximité, dans ces grandes délicatesses, que les gestes sont les plus inventifs et les plus imaginatifs.
J'ai l'impression que pour vous, la plus belle scène de main, c'est une scène érotique.
Mais toute scène de main est érotique. Vous savez, je me demande dans mon livre qui a inventé un jour dans l'histoire de l'humanité le fait de se serrer la main pour se dire bonjour. Eh bien, c'est très émouvant. Quels sont les deux hommes ou les deux femmes ou l'homme et la femme qui un jour se sont tendus la main et ont décidé de se toucher, de se dire ton corps est avec mon corps. Moi, je trouve ça bouleversant. On ne saura évidemment jamais qui c'est.
Et quand on a la main dans la poche ?
Quand on a la main dans la poche, ça dépend des pays. Parce que par exemple, mes parents m'ont appris qu'il était très mal élevé de garder les mains dans la poche. Ça veut dire qu'il y a une désinvolture vis-à-vis de la personne à qui on parle. En France, c'est assez comme ça. Or, aux États-Unis, en revanche, la main dans la poche est considérée comme tout à fait bien. Je ne sais pas si vous remarquez que très systématiquement, les présidents américains, pas celui-là qui a peine des mains et qui a des poings et qui n'a de poche que celle des autres où il doit voler l'argent, mais en général, ils ont la main dans la poche d'une manière très dégagée, ce que ne font pas par exemple les présidents français. Obama avait tout le temps la main dans la poche, et ça veut dire probablement de leur part, je suis cool, je suis un peu comme les cow-boys, je suis président, mais en fait je suis ton pote.
Non, c'est peut-être pour ça que j'ai toujours la main dans la poche, alors Charles.
Vous avez un côté cow-boy, Augustin.
Ah bah totalement. Total. Et je vais vous dire, même depuis mes 16 ans, comme Alanis Morissette, quand elle chantait Hand in my pocket, vous êtes sur France Inter avec Charles Danzig, vous écoutez Boomang, on est mardi.
I'm broke but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Même s'il déteste qu'on le remarque, il a quand même quelque chose du dandy, hein. Dandy fin de siècle, dandy repenti, avec son cheveu court qui trahit une forme de révolte vis-à-vis de l'ordre capillaire. Fini la mèche BHL, bonjour, le bagne, façon Genet, il est héron, petit patapon, veste de député, pantalon vert de gris velours, bottines noires de pacha, d'attaque pour une jolie chanson de geste, troubadour et ménestrel, gare à vous, Charles Danzig, invité de Boomerang ce matin pour parler de gestes et de bonne manière, un livre où vous nous dites en fait que les gestes sont constitutifs d'une identité. C'est ça qui est passionnant, qu'on se construit par les gestes. Et du coup, je vous pose la question, par quel geste est-ce que vous vous êtes construit, vous ?
Oh, par un geste très simple, probablement celui de prendre un stylo et de le poser sur une feuille de papier. Moi, tout ce que je voulais être quand j'étais petit, c'était rentrer sur le manège enchanté de la littérature. C'était ça, mon idée. Et je savais pas comment faire. Et comment on fait, c'est très simple. C'est on prend un papier et on écrit. Et c'est comme ça que je me suis constitué par ce geste-là, vraiment.
Sans jamais figer, vous écrivez, vous concernant, j'espère changer de geste comme de façon de m'habiller, de lecture, de goût. Mes habitudes ne me semblent pas essentielles. Je suis une harpe, passe le vent entre mes cordes. Et de tous les gestes que vous prenez et changez, lesquels est-ce que vous gardez ?
Toujours celui-là, celui d'écrire, parce que je crois que c'est important de... Enfin, je n'aime pas l'idée qu'on se répète et qu'on ait des choses à soi qui nous constituent et qui soient tellement caractéristiques comme des expressions ou des gestes.
Sauf l'écriture, vous ne seriez donc que cela, un écrivain, Charles Danzig.
Non, je suis aussi encore Augustin. Mais d'ailleurs, je crois que les livres ressemblent aussi physiquement à leurs auteurs. C'est-à-dire que je pense que les livres de Tolstoï ressemblent à ce qu'était Tolstoï, par exemple. C'est-à-dire que Guerre et Paix, ça ressemble à la barbe de Tolstoï et au grand corps de Tolstoï. Et c'est une espèce de Volga, comme ça, comme était sa barbe, qui s'étalait. Et je pense que probablement mes livres me ressemblent physiquement aussi.
C'est intéressant, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça traduit chez vous l'angoisse de se répéter, de refaire les mêmes gestes mécaniques, en fait.
Oui, mécaniques. Et en plus, au fond, se répéter, ça veut dire qu'on se trouve très intéressant. Et je pense pas me trouver si intéressant, ni l'être, d'ailleurs. Donc, le fait de se répéter, c'est une forme de vanité aussi.
Cela dit, vous savez qu'à la radio, on travaille avec des gestes mécaniques. Vous le savez, puisque vous êtes également producteur de radio. Le doigt qui tapote sur le casque quand on n'entend pas bien. Le bras lancé comme un boomerang pour lancer un son. La cloche qu'on tire vers le bas pour lancer une virgule. Si je changeais souvent de geste, ma réalisatrice Lola Costantini risquerait de faire un arrêt. Charles Danzig, il y a quelque chose de rassurant et d'efficace quand même dans le geste mécanique, non ?
Oui, mais ça c'est plutôt des gestes de l'artisanat. C'est exactement comme vous feriez une pizza, Augustin. En fait, quand on fait ces gestes à la radio, c'est comme si on fabriquait une pizza. C'est des gestes d'accompagnement, parce qu'il y a des gestes d'accompagnement, des gestes de création. Ça, ce sont des gestes que nous faisons tous d'accompagnement. Il y a parfois des gestes de création. Vous recevez des acteurs dans votre émission et les acteurs sont des créateurs de gestes. Et parfois, bouleversant, je raconte dans mon livre qu'il y a quelques années, j'ai vu Fanny Ardant au théâtre, dans une pièce de La Garce, au Bouffe du Nord à Paris. Elle ne faisait rien, elle était assise sur une chaise, parce que pour moi, un grand acteur ne fait rien. Un grand acteur, c'est quelqu'un qui ne fait rien et qui joue avec le souvenir que nous avons de lui. Bref, à un moment, Fanny Ardant a eu, comment peut-on appeler ça, un tombé de main, comme ça, elle a laissé tomber sa main sur le côté. Ça ne voulait rien dire en soi et c'était très imagé et très bouleversant et je m'en souviens encore des années après. Et ça, c'est une création.
J'aimerais lire, si vous le voulez bien, un extrait de votre traité des gestes. C'est dans une section qui s'appelle donc « Gestes efféminés » dont on a parlé auparavant. « Joli geste efféminé, un garçon plongeant le nez dans un mug qu'il tient d'une main, petit doigt sous la base, petit doigt et l'annulaire de l'autre main pinçant l'anse tandis que le majeur et l'index tiennent une cigarette. Efféminé est un mot insultant qui procède autant de la misogynie, on n'a pas d'équivalent pour les femmes à gestes virils, parce que la virilité est louable pour tous les sexes, que de l'homophobie, mais aussi de la peur. L'effémination est une frontière troublée et l'être humain est rassuré par les frontières. » C'est que moi, petit, Charles Danzig, ma grand-mère me tapait sur le petit doigt quand je buvais une tasse de thé, pour pas qu'il sorte précisément. C'est intéressant de voir à quel point ça n'a servi à rien aussi, puisque je continue à sortir mon petit doigt. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites sur la frontière. L'être humain est rassuré par les frontières. Pourquoi ça rassure ?
parce que la plupart des êtres humains n'ont pas d'imagination et ont peur de tout ce qui sort d'un cadre. Pardonnez-moi de dire une chose comme ça, mais les gens qui pensent, qui réfléchissent et qui créent sont un peu moins nombreux que les autres. Et donc, c'est toujours une forme d'audace de proposer une chose nouvelle. Et les autres préfèrent être encadrés parce que c'est rassurant, peut-être aussi parce qu'ils s'ennuient dans la vie, qu'ils ont autre chose à faire. Ils veulent donc la répétition, la réitération, d'ailleurs des paroles, des gestes. C'est bien pour ça que des politiciens crétins et stupides sont réélus en permanence, simplement parce qu'ils sont là et que ça rassure qu'ils soient là. Et la répétition des gestes procède de ça aussi. C'est qu'on veut, on s'imagine en plus encadrer la personnalité par des gestes stéréotypés, mais ça n'existe pas.
Figé, oui.
Oui, c'est ça.
Et l'identité.
Et l'identité.
Également. Par exemple, qu'est-ce qui inquiète dans le fait que les frontières entre le masculin et le féminin puissent être troubles ?
Mais parce qu'ils croient que le masculin et le féminin, ça existe.
Oui.
C'est des présupposés stupides, on connaît très bien. Enfin, qu'est-ce que veut dire masculin et féminin? On sait pas. Moi, je crois qu'on est sexué au moment où on commet l'acte sexuel. Là, oui, on devient un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou une femme et une femme. Mais la plupart du temps, nous sommes neutres. Là, je vous parle, vous n'êtes ni un homme ni une femme, vous êtes Augustin Trapenard.
Et un pizzaïolo, comme vous l'avez très gentiment fait remarquer tout à l'heure.
Et il n'y a rien de genre. Si je puis dire, dans la plupart du temps, nous sommes des êtres neutres et la notion de genre n'intervient qu'à des moments très très rares. Et je pense que tout ça affole des gens qui, en général, font assez peu l'amour.
Troublons les genres.
What is he talking about?
Macbeth.
We know you. We've seen you like this before. Is it over or is it just beginning? Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Vous avez choisi de nous parler d'une scène, Charles Dantzig, une scène du film de Joseph Mankiewicz, All About Eve, avec Bette Davis. Vous l'imitiez, Bette Davis, je crois.
Moi, j'ai commencé à fumer à cause de Bette Davis.
Oh.
Ah oui, je vous assure. Justement, dans ce film All About Eve, là, c'est une scène quand elle parle, là, on vient de l'entendre, elle tient un verre de martini avec une olive et une cigarette entre l'index et le majeur. Elle jette son olive dans le verre et s'approche d'une rampe d'escalier où elle pousse sa main avec la cigarette entre l'index et le majeur et elle dit ça, attachez vos ceintures, la soirée va être agitée. Et elle avait une manière de taper sa cigarette sur le dos de la main que je trouvais formidable. Je me dis, pour refaire ce geste, il faut que tu fumes pour ça.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle imitait Humphrey Bogart.
Elle imitait Humphrey Bogart elle-même. Et la chose amusante, c'est que les gestes peuvent être joueurs et aberrants, car elle faisait ça et Bogart faisait ça parce qu'il fumait des cigarettes sans filtre. Et si on faisait ce geste, c'était pour tasser le tabac avant de mettre la cigarette à la bouche. Et moi, je faisais ça avec des cigarettes à bout filtre. Donc
ça n'avait aucun sens.
Ça n'avait aucun sens.
Mais cela dit, ça dit quelque chose de la cigarette qui est à la fois masculine et féminine. Elle est genrée. Elle est profondément sexuelle.
Elle est très sexuelle. Écoutez, il y a des scènes dans le cinéma. Il y a par exemple un film de Sacha Guitry, qui est Kadri, je crois, où on voit Guitry allumer une cigarette très lentement, la sortir de sa bouche et la tendre à celle qui joue sa femme, qui la fume, si c'est pas un acte sexuel. La cigarette marchait, non pas à cause du tabac, mais à cause du sexe. C'était populaire à cause de ça. Car il y avait deux choses. Il y avait ces gestes-là, et d'autre part, il y avait aussi le geste de donner du feu, où la main s'approchait d'un visage. On mettait la main en conque autour de la cigarette pour empêcher que le vent n'éteigne la flamme du briquet. Et c'était aussi la cigarette, la circonstance sociale, Augustin, je crois, où les corps pouvaient être, en quelque sorte, légalement le plus proche. C'est-à-dire, quand on s'approchait de quelqu'un pour lui donner du feu, on était tout d'un coup à 25 cm, et ça rapprochait les corps. Très inconsciemment, c'était du sexe. Maintenant, ça n'existe plus parce que les gens ne fument plus avec la cigarette électronique, il n'y a plus ce rapprochement des corps.
Mais alors justement, quelle serait cette scène avec Bette Davis et une cigarette électronique?
Ça serait monstrueux, vous vous rendez compte? Ça serait, elle aurait une espèce, on la verrait plus, il y aurait une espèce de vapeur de vapotage autour d'elle et elle dirait, face à une aussi belle, il y a des nuages autour de nous.
Quel est le geste, et c'est ma dernière question, le plus érotique pour vous?
C'est une main qui caresse une joue.
Merci infiniment, Charles Dantzig, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Votre délicieux traité des gestes vient de sortir chez Grasset. C'est édifiant aussi, plein d'esprit, de mordant. Tout de suite, justement, la mordante, Sonia De Villers. L'instant M, juste après ça.
Commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, y'a 5 filles contre et 5 gars pour. Routard, je leur soumets, mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Une Asiate me branche, veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse sec comme un schnapps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil de Taïwan.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnopéique, géopoétique.
S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris, Dieppe, Yep ou vol comme Bob ou comme mort.
Depuis des lustres, je rafale sur le diable, mais pas de bol, qui vit.
Une promo d'Opodo cadeau me mène en Bolivie. Au Vatican, des Helvètes scrutent les pratiquants. Je jure que tu peux en voir le soir, cité du Vatican. Donc, j'ai fait mon service dans la Confédération Suisse. Si j'aime ça, affirmatif. Y'a que la Confédération Suisse.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnopéique, géopoétique.
Du monde j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles. J'y ai appris des choses, en grillant tous mes miles. J'ai connu la Pologne, la gare de Bologne. Je sais que pour la chasse en Sologne, faut pas mettre d'autres colonnes.